Merci. Justement, pour essayer de respecter ce délai, comme j'ai pas mal de choses à dire, j'ai écrit ma présentation et je vais vous la lire. Donc, je vais vous parler d'Einstein et des quantas, pas spécifiquement Einstein et le Collège de France, bien que nous verrons qu'il y a quand même des rapports entre les deux. La confirmation de la théorie de la relativité générale par l'observation de la déflexion de la lumière rasant le soleil pendant l'éclipse de 1919 fit d'Einstein une célébrité mondiale. Un siècle plus tard, la détection des ondes de gravitation prédites par cette théorie a fait écho à la vague médiatique de 1919 et a mis à nouveau le nom d'Einstein sur le devant de la scène. La relativité n'est cependant qu'une des faces de l'œuvre scientifique d'Einstein. Les deux autres sont constituées par ses contributions à la physique statistique et par celles fondamentales qu'il a faites sur les quantas. Il a écrit en 1905 l'article fondateur sur la quantification de la lumière. Dans les années suivantes, il a contribué à l'approfondissement d'une théorie aux retombées technologiques aujourd'hui innombrables. On peut donc dire sans se tromper qu'Einstein a eu sans doute plus d'influence sur notre vie quotidienne par ses contributions à la physique quantique que par sa découverte de la relativité. Einstein reste cependant auprès du grand public avant tout l'homme de la relativité. Les films et documents sur lui, il y en avait encore un avant-hier sur Arte, parlent de synchronisation d'horloges, de trains, de la fameuse formule E égale mc², de la bombe atomique, ou encore des trous noirs ou de l'expansion de l'univers, mais très peu des quantas et des intuitions fulgurantes d'Einstein concernant le monde microscopique. Quant aux physiciens, s'ils associent le nom d'Einstein aux quantas, c'est souvent et paradoxalement pour insister sur les réserves qu'il a exprimées jusqu'à la fin de sa vie sur cette théorie. Ses critiques ont partiellement éclipsé le rôle essentiel qu'il a joué de 1905 à 1925, durant les 20 années où la théorie quantique s'est élaborée. On peut dire par métaphore que relativité et physique quantique sont deux enfants d'Einstein. Il avait confiance dans l'une, la relativité, et il n'a jamais douté que toutes les observations la vérifieraient. L'autre, l'enfant quantique, s'est montré rétive et malgré ses succès, ne l'a jamais vraiment satisfait. Il a eu avec elle des rapports difficiles, cherchant à imaginer les expériences qu'il a falsifierait, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que la postérité l'associe plus à son enfant bien-aimé qu'à la rebelle. Mais comme souvent dans les familles, les relations conflictuelles sont riches d'enseignements, et le parcours qui a conduit Einstein à la théorie des quantas, avant de la critiquer, est au moins aussi passionnant à étudier que la naissance de la théorie de la relativité. Commençons par le contexte scientifique de la jeunesse d'Einstein. À la fin du XIXe siècle, les progrès de la science faisaient croire que les grands mystères de la nature étaient résolus et annonçaient un avenir technologique radieux. Maxwell avait accompli pour l'électromagnétisme et la lumière ce que Newton avait fait deux siècles auparavant pour la mécanique et la gravitation, expliquer des phénomènes apparemment disparates dans une théorie unifiée. La thermodynamique, culminant avec les travaux de Boltzmann, complétait l'édifice. Elle définissait les concepts d'énergie et d'entropie et exprimait le principe que les systèmes physiques cherchaient à minimiser leur énergie tout en maximisant le désordre ou l'entropie. Ces connaissances fondamentales avaient mené à la civilisation de la machine à vapeur, puis à celle de l'électricité et du moteur à explosion. Les progrès de l'expérimentation révélaient des phénomènes nouveaux, les ondes radio, l'électron, l'effet photoélectrique, les rayons X et la radioactivité. À ces nouveautés, ajoutons l'expérience de Michelson, jetant le doute sur l'existence de l'éther luminifère, ce milieu dont la lumière était, dans lequel la lumière était supposée se propager. La foi dans les succès de la science et des progrès qu'ils annonçaient se manifesta dans la Grande Exposition universelle de Paris en 1900. Les cartes postales, éditées à cette occasion, décrivaient le monde rêvé de l'an 2000. L'une montrait par exemple comment la radioactivité, découverte par Becquerel et Curie, servirait un siècle plus tard à nous chauffer. Un morceau de radium dans la cheminée et plus besoin de bois ou de charbon. D'autres cartes, comme celle-ci, extrapolées à partir des technologies existantes, telles le téléphone ou le cinématographe, mais elles ne prévoyaient pas ce que le XXe siècle nous a apporté et qui vient de la découverte des lois quantiques. Ni l'ordinateur, ni le laser, ni le GPS, ni l'IRM, pour prendre quelques exemples, n'étaient imaginables en 1900. L'incapacité de la physique classique à expliquer certains phénomènes fut résumée la même année par Lord Kelvin dans une conférence à la Royal Institution de Londres. Il mentionna deux nuages venant assombrir la physique de la fin du XIXe siècle. Le premier portait sur les propriétés thermiques de la lumière et l'autre sur l'énigme de sa vitesse qui se trouvait être indépendante du repère dans lequel on l'a mesuré. Lord Kelvin pointa ainsi les deux problèmes qui devaient mener aux révolutions de la relativité et des quanta, deux révolutions dans lesquelles Einstein devait jouer un rôle essentiel. Disons d'abord quelques mots de la relativité, pour résumer ce qui en a été dit hier. La solution qu'il trouva au problème de la constance de la vitesse de la lumière est relativement simple, sans jeu de mots. Il lui suffit de généraliser le principe de la relativité du mouvement, énoncé au XVIIe siècle par Galilée, qui avait posé que les lois de la mécanique devaient s'exprimer de la même façon dans tous les repères en mouvement relatif à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Ce principe est vérifié tous les jours dans les trains ou avions en mouvement uniforme. Un passager ne peut, sans regarder à l'extérieur, savoir s'il bouge ou non. Toutes les expériences de mécanique qu'il peut y faire, comme lancer une balle en l'air, donnent le même résultat que s'il les faisait immobiles par rapport à la Terre. Einstein étendit ce principe à l'électromagnétisme, puis à toute la physique. Les équations de Maxwell donnent la vitesse de la lumière, à la vitesse de la lumière une valeur de 300 000 km à la seconde. Cette valeur doit être la même dans tous les repères pour qu'on ne puisse savoir en la mesurant si l'on bouge ou non. Ce postulat entraîne que la loi de composition des vitesses de la physique classique, basée sur l'existence d'un temps absolu, ne peut plus s'appliquer puisque la vitesse de la lumière ne s'ajoute ou ne se retranche d'aucune autre. Renoncer à cette loi, c'est admettre que le temps dépend du repère dans lequel il est mesuré, et c'est reconnaître que les variables de temps et d'espace sont intimement liées. Le concept d'espace-temps en découle et entraîne en retour la fameuse équation entre l'énergie et la masse, E égale mc carré. En généralisant le principe de relativité au mouvement à vitesse variable et en assimilant repère accéléré à un repère dans un champ de gravitation externe, Einstein devait, en 1916, formuler la théorie de la relativité générale, et on a entendu hier des exposés qui raconter comment cette histoire s'était déroulée, non sans difficulté, mais le principe simple était posé. La relativité découle ainsi de façon logique d'un principe. Einstein en tira les conséquences et il eut le courage de renoncer au dogme du temps et de l'espace absolu. Les équations de changement de repère de la relativité restreinte portent le nom de Lorentz, qui les avait écrites avant Einstein, mais ni ce physicien, ni Poincaré, qui avait étudié les mêmes équations, ne leur avait donné leur sens physique profond. Ce sens, la relativité du temps et de l'espace, s'imposa, malgré son caractère contre-intuitif aux physiciens, une fois qu'ils acceptèrent le principe de base de la relativité. Et même si les philosophes, Bergson en particulier, continuèrent longtemps à débattre de la question du temps et de la simultanéité, il n'y avait pour la science plus réellement de questions d'interprétation ni de polémiques possibles. Il en fut autrement de la théorie quantique. Elle est née, sinon dans la douleur, du moins après une longue période de tâtonnement, et son élaboration a été le fruit de travaux de plusieurs savants. Même si son rôle a été essentiel, Einstein n'en a été que l'un des pères. La complexité de cette physique tient, contrairement au cas de la relativité, à ce qu'elle ne découle pas d'un principe unique, mais d'un ensemble de postulats sur la nature qui se sont imposés de façon empirique à partir d'observations diverses. L'article fondateur de cette physique fait partie de la production miraculeuse d'Einstein en 1905. Son titre a une connotation philosophique et surprenant pour un papier de physique. Un point de vue heuristique sur la production et la transformation de la lumière. Einstein y fait d'une pierre deux coups. Il donne une explication aux propriétés jusqu'alors incomprises du rayonnement des corps chauffés et interprète les caractéristiques surprenantes de l'effet photoélectrique nouvellement observé. Et ce faisant, il introduit le concept révolutionnaire de dualisme entre ondes et particules. Le premier nuage de Lord Kelvin concernait la distribution spectrale de la lumière émise par les corps chauffés, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Tout objet rayonne de la lumière visible, infrarouge, ultraviolette, et le spectre de cette lumière dépend de la température. Ce rayonnement peut être observé en maintenant à une température donnée T, une cavité à la paroi absorbante pour la lumière qu'elle reçoit, d'où le nom de corps noir, et en mesurant les radiations qui s'échappent par un petit trou dans la paroi. La distribution des couleurs de la lumière émise à une température donnée avait été mesurée par des expériences précises à la fin du XIXe siècle. La courbe de l'intensité rayonnée en fonction de la fréquence est en forme de cloche, avec un maximum qui se décale vers les hautes fréquences, c'est-à-dire vers les petites longueurs d'onde, lorsque la température augmente. Ce fait expérimental est facile à observer. À la température ordinaire, le maximum de rayonnement est autour de 10 microns dans l'infrarouge et le corps noir est alors invisible à l'œil, d'où le nom de corps noir. Chauffée, l'enceinte commence à émettre de la lumière rouge. À plus haute température, la couleur vire vers l'orange, puis vers le jaune. Et à toute température, la courbe décroît vers zéro, aux grandes et aux petites longueurs d'onde. De façon surprenante, la physique classique ne peut expliquer ces caractéristiques simples. D'après Maxwell, chaque composante de fréquence du champ dans une cavité est analogue à un petit oscillateur vibrant. Le nombre de ces oscillateurs élémentaires dans une fenêtre autour d'une fréquence donnée croît comme le carré de la fréquence. Cette croissance, au moins qualitativement, se comprend simplement. Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite, et plus il y a de modes du champ susceptibles d'osciller entre les parois d'une cavité de dimension donnée. La thermodynamique classique dit par ailleurs que l'énergie du champ doit se partager équitablement entre tous ces modes d'oscillation, chacun ayant une énergie moyenne proportionnelle à la température absolue, égale à la température Celsius augmentée de 273 degrés, et la constante de proportionnalité K avait été introduite en physique par Boltzmann. Cette équipartition de l'énergie vient du principe anthropique qui dit que la nature cherche à l'équilibre l'état qui correspond au désordre maximum. Si l'énergie est à un instant inégalement distribuée, les échanges thermiques vont tendre à supprimer les différences d'énergie et à atteindre un état dans lequel les oscillateurs auront tous la même énergie en moyenne qui correspond à l'état de désordre maximum. Il en résulte que l'énergie du rayonnement s'échappant de la cavité à une fréquence nu donnée doit être proportionnelle à la température T et à nu au carré. Cette loi avait été établie par les physiciens Rayleigh et Jeans à la fin du XIXe siècle et elle rend correctement compte de la distribution spectrale aux petites fréquences, c'est-à-dire aux grandes longueurs d'onde, mais aux courtes longueurs d'onde, elle s'éloigne du spectre observé et conduit à une absurdité. Le rayonnement doit diverger dans l'ultraviolet, ce qui physiquement n'a pas de sens et ce qu'on a appelé alors la catastrophe ultraviolette. Planck avait trouvé en 1900 une formule mathématique qui s'accordait bien à l'expérience et qui évitait cette catastrophe en postulant que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière devaient se dérouler non pas de façon continue mais par éléments discrets ou quanta d'énergie H nu proportionnel à la fréquence. Et à cette occasion, il avait introduit la fameuse constante de Planck H qui porte son nom. Donc. Mais cette introduction des quantas apparaissait comme une astuce mathématique, comme une tentative désespérée, comme Einstein le disait lui-même, pour sauvegarder la physique classique. Pour Einstein, les quantas prirent un sens beaucoup plus profond. C'était non pas les échanges lumière-matière qui devaient être quantifiés, mais les énergies des oscillateurs du champ eux-mêmes qui devaient l'être. Chacun des modes du champ possède une petite échelle, une échelle d'énergie dont les intervalles entre les barreaux H nu sont proportionnels à la fréquence. Aucune des énergies intermédiaires entre ces barreaux n'est permise. Sauter d'un barreau au suivant, c'est émettre ou absorber un quantum d'énergie lumineux, ce qu'on allait appeler bien plus tard un photon. Plus la fréquence est grande, plus l'intervalle entre les barreaux est important et plus coûteuse en énergie devient l'ascension de ces échelles. Le champ thermique se trouve ainsi pris entre des contraintes thermodynamiques antagonistes. Il lui faut trouver un compromis entre minimiser son énergie, c'est-à-dire rester à l'altitude la plus basse possible dans ces échelles, et maximiser son entropie, c'est-à-dire occuper autant de barreaux que possible pour augmenter le désordre. À basse fréquence, il existe beaucoup de barreaux ayant une énergie de l'ordre de kT, et la loi de l'équipartition de l'énergie, ainsi que la formule de Rayleigh-Jeans qui en découle, sont de bonnes approximations. Mais lorsque H nu devient de l'ordre de kT, monter dans l'échelle coûte trop en énergie pour que le système puisse augmenter son entropie en occupant beaucoup de niveaux. Les oscillateurs quantiques de grande fréquence sont gelés dans leur état fondamental. Ils ne participent plus à la distribution d'énergie spectrale et la loi de Planck en résulte. Dans le même article, Einstein montrait que la notion de photon expliquait un autre mystère de la lumière, les propriétés étranges de l'effet photoélectrique. Lorsqu'on irradie un métal, il émet des électrons, particules élémentaires qui avaient été découvertes en 1897, mais cet effet possède une caractéristique étrange. Il ne se produit que lorsque la lumière a une fréquence supérieure à un seuil dépendant du métal. Au-dessous de ce seuil, une lumière même très intense ne peut extraire d'électrons. Au-dessus du seuil, une lumière même très faible va extraire des électrons. Einstein expliqua ce résultat en disant qu'un électron du métal devait absorber un photon et un seul pour s'échapper, et que ce photon devait posséder l'énergie minimale d'extraction du métal, d'où le seuil de fréquence. Par analogie, on comprend qu'une chute de neige abondante et continue aura moins d'effets perturbateurs en tombant sur une surface fragile qu'une grêle dans laquelle la même quantité d'eau arrive sous forme d'entités discrètes, très énergétiques. De plus, Einstein prédit une propriété qui était encore inobservée. Si la fréquence de la lumière était augmentée au-dessus du seuil, l'excédent d'énergie fourni par photon devait se traduire par une augmentation de l'énergie cinétique des électrons extraits, cette augmentation variant linéairement avec la fréquence de la lumière. Et la pente de cette variation devait donner une mesure nouvelle de la constante de Planck. La vérification quelques années plus tard de ce résultat motiva le prix Nobel d'Einstein, décerné en 1922 pour l'année 1921, et la citation de ce prix mentionne l'élucidation de l'effet photoélectrique et ne parle pas du tout de la relativité. En acceptant l'idée que la quantification des énergies est plus qu'une astuce mathématique, mais une vérité physique profonde, Einstein accomplit un pas de géant. Depuis les expériences d'interférence de Young et de Fresnel et la théorie de Maxwell, il était admis que la lumière était une onde, comme Huygens l'avait proposé au XVIIe siècle, et la théorie corpusculaire de Newton avait été abandonnée. Dans son papier de 1905, Einstein ne récuse ni la théorie ondulatoire, ni les équations de Maxwell, sur lesquelles il s'est d'ailleurs par ailleurs appuyé pour établir la théorie de la relativité. Mais il affirmait de façon révolutionnaire que la lumière était une onde lorsqu'elle se propageait et se manifestait par des phénomènes d'interférence, et qu'elle était formée par contre d'entités discrètes quand elle interagissait avec la matière. Dans un article écrit 2 ans après le papier de 1905, Einstein devait approfondir cette idée en montrant que les fluctuations du rayonnement thermique contenaient 2 termes, l'un qui décrivait une granularité fondamentale, l'autre qui correspondait aux contributions d'ondes continues fluctuantes. Je vous renvoie à ce sujet à l'exposé de Bernard Derrida d'hier. Einstein réconciliait ainsi Huygens et Newton de façon inattendue et introduisait un principe de dualisme qui devait, à partir de ce moment, dominer la physique. Et je résume ce principe de dualisme en vous montrant cet ambigramme de Douglas Hofstadter qui indique que de façon complémentaire ou de façon un peu paradoxale, la lumière est tantôt une onde, tantôt un ensemble de particules. Ce qui caractérise le génie d'Einstein, c'est sa capacité à tirer les conclusions de ses découvertes sans se laisser guider par des idées préconçues et à généraliser les résultats obtenus dans un domaine à d'autres champs de la physique. Ayant compris la nécessité de quantifier les oscillateurs lumineux, il extrapola ce résultat à l'étude des oscillateurs mécaniques que sont les atomes dans un solide. Ces atomes vibrent autour de la position d'équilibre à des fréquences qui dépendent de la structure cristalline, la fréquence des vibrations étant d'autant plus élevée que le solide est plus rigide. Depuis le XIXe siècle, les physiciens français Dulong et Petit ont savait que la chaleur spécifique atomique des solides, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut fournir pour augmenter par atome la température d'un degré, prend pour un grand nombre d'éléments une valeur constante égale à 3 fois la constante de Boltzmann. Ce résultat est une conséquence de l'équipartition de l'énergie, chaque atome correspondant à 3 degrés de liberté, un pour chaque direction de l'espace. Il y avait cependant des exceptions à cette règle, le diamant par exemple ayant une chaleur spécifique par atome de carbone inférieure à cette valeur. Einstein émit l'hypothèse que les oscillateurs atomiques étaient quantifiés, comme les oscillateurs du champ électromagnétique, et que ces oscillateurs devaient vibrer plus vite dans le diamant que dans d'autres éléments pour lesquels la loi de Dulong et Petit s'appliquait. Il en résultait, comme pour le cas du rayonnement thermique, que ces oscillateurs de haute fréquence devaient voir leurs excitations gelées à la température ambiante. Et l'expérience confirme bien que si on chauffe le diamant au-dessus de cette température, on retrouve la loi de Dulong et Petit. Inversement, Einstein prédit qu'à suffisamment basse température, la chaleur spécifique par atome des métaux devait s'effondrer et s'annuler à la température du zéro absolu. Einstein présenta cette analyse au premier congrès Solvay de 1911, dont on a déjà montré la photo dans ce colloque, où il rencontra Marie Curie, Paul Langevin et les autres grands physiciens du début du siècle et où furent discutées pour la première fois les idées de la physique quantique naissante. Marcel Brillouin, professeur au Collège de France, dont le fils Léon fut l'un des fondateurs une 20aine d'années plus tard de la théorie quantique des solides, était avec Maurice de Breuil le secrétaire de ce congrès. Le collège a conservé les actes du colloque renéotypés et annotés au crayon par Marcel Brillouin. Voici la page de garde de la contribution en allemand d'Einstein avec le plan de son exposé, écrit de sa main. Le titre en était « De l'état actuel du problème des chaleurs spécifiques » et le sous-titre du premier paragraphe relation entre chaleur spécifique et formule du rayonnement thermique. Et voici des extraits où apparaissent les formules de Rayleigh-Jeans et la formule de Planck, appliquées non plus au rayonnement, mais à des oscillateurs matériels. Et on voit partout, toutes ces pages, les notes au crayon de Marcel Bridouin, qui manifestent parfois un agacement ou non-compréhension pour cette physique nouvelle. Donc il est très intéressant de lire ce texte dans le contexte de l'époque. Dès ce moment, il devint clair que la constante de Planck n'était pas qu'une curiosité introduite dans un modèle mathématique pour faire coller la théorie à l'expérience, mais une constante fondamentale de la nature. Sa valeur finie était l'indication du caractère discret des grandeurs physiques microscopiques, et la physique classique ne devait être retrouvée que comme une approximation lorsque les énergies thermiques KT mises en jeu étaient grandes devant le quantum H nu, pouvant alors être considérées comme H pouvant alors être considéré comme nul. Ainsi, les révolutions de la physique du début du XXe siècle n'ont pas aboli les théories de Newton et Maxwell, mais les ont généralisées. La mécanique classique se retrouve comme une limite de la quantique quand H peut être assimilé à zéro, et comme une limite de la relativité restreinte quand la vitesse de la lumière C devient très grande devant les vitesses impliquées dans les phénomènes étudiés. Elle peut alors être prise comme infinie et 1 sur C assimilée à zéro. Le double exploit d'Einstein en 1905 a été de comprendre ce qui se passe quand les valeurs finies de 1 sur C et de H ne peuvent pas être négligées. On retrouve alors dans un cas la relativité et dans l'autre cas la physique quantique. Apparaissait aussi l'idée que les phénomènes quantiques se manifestent de façon privilégiée à basse température, ce que toute la physique du XXe siècle a par la suite confirmé. C'est en 1911, juste après le congrès Solvay, que la supraconductivité de certains métaux, leur capacité à conduire sans résistance le courant électrique à très basse température, a été découverte par le Hollandais Kamerlingh-Onnes, que vous voyez en photo sur la photo du congrès Solvay à côté d'Einstein. La supraconductivité est un effet quantique qui disparaît au-dessus d'une température de transition, mais il fallut attendre 1957, 2 ans après la mort d'Einstein, pour l'expliquer complètement. Comme nous le verrons, Einstein devait cependant introduire dans les années 1920 un concept fondamental pour la compréhension de ce phénomène. L'homme debout à côté de Kamerlingh-Onnes, Ernest Rutherford, est également important dans notre histoire. Toujours en 1911, il déduisit d'une expérience de diffusion alpha, des rayons alpha par une mince feuille d'or, que les atomes étaient constitués d'un noyau lourd, quasi ponctuel, chargé positivement, autour duquel tournaient des électrons légers. L'idée qui s'en déduisait était que l'atome devait être un petit système planétaire, avec le noyau pour soleil et les électrons comme planètes. Mais là encore, la physique classique se trouvait dans une impasse. Des électrons tournant autour du noyau devaient, d'après Maxwell, rayonner de l'énergie électromagnétique et tomber sur le noyau, rendant la matière instable. Un jeune visiteur postdoctoral de Rutherford à Manchester, le Danois Niels Bohr, apporta en 1913 une réponse à ce problème. Il établit le premier modèle quantique de l'atome en postulant que les énergies des électrons dans l'atome étaient quantifiées comme les oscillateurs d'Einstein. Les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites et n'ont jamais d'énergies intermédiaires. On retrouve encore cette image des barreaux d'une échelle, cette fois avec des marches inégales entre les niveaux. Dans ce modèle, les électrons sautent d'une orbite à l'autre en émettant ou absorbant un quantum de rayonnement, l'énergie H nu du photon étant égale à la différence des énergies entre les deux niveaux concernés. Sur le niveau fondamental d'énergie la plus basse, l'électron ne peut rayonner et l'atome est stable. Le passage d'un niveau à l'autre se fait par saut quantique instantané. Le modèle de Bohr permettait de calculer les niveaux d'énergie de l'atome le plus simple, l'hydrogène, avec une formule faisant à nouveau intervenir la constante de Planck. Le spectre des fréquences absorbées par l'atome était en très précis accord avec l'expérience, et ce modèle et le fait que la constante de Planck intervenait à nouveau dans un contexte très différent renforça la confiance que les idées quantiques commençaient à acquérir dans la communauté des savants. Einstein fut heureux de voir ses idées généralisées à la compréhension de la structure de la matière. J'évoquerai plus loin ses rapports plus ou moins compliqués avec Bohr et leurs discussions au sujet de l'interprétation de la physique quantique. En 1913, cependant, Einstein avait provisoirement abandonné l'étude des photons pour se consacrer à la théorie de la relativité générale, comme nous l'avons appris dans les exposés d'hier. En 1916, une fois cette théorie établie, il revint au quanta. Maintenant que l'on comprenait mieux la nature quantique de la lumière et de la matière, était-il possible de revisiter la théorie du rayonnement du corps noir en analysant en détail les processus d'échange d'énergie entre les atomes quantifiés et les photons. Les atomes peuvent soit absorber des photons, soit en émettre, et l'équilibre thermique résulte de la balance entre ces deux mécanismes. L'absorption se fait pour chaque atome avec une probabilité par unité de temps proportionnelle au nombre de photons, aux fréquences résonantes avec les transitions atomiques, alors que l'émission spontanée d'un atome excité vers un niveau plus bas se fait de façon aléatoire, un atome émettant à un instant imprévisible un photon dans un mode ou un autre du champ avec une loi de probabilité par unité de temps indépendante de la lumière présente. Einstein constata vite que ces deux mécanismes n'étaient pas suffisants pour retrouver la loi de Planck. Il fallait, pour y parvenir, ajouter un troisième processus par lequel un atome excité, recevant un photon, en émet un nouveau dans le même mode que celui des photons déjà présents. Et ces photons sont émis avec une probabilité qui est proportionnelle au nombre de photons présents. Ce mécanisme d'émission, dit stimulé, est l'exact pendant de l'absorption. Il amplifie la lumière au lieu de l'atténuer. Il montre que lorsque des photons sont en présence d'atomes excités, de nouveaux photons apparaissent dans les modes déjà occupés, et cela d'autant plus rapidement que le nombre de photons présents est plus important. L'émission stimulée est exploitée dans les lasers, qui ont été inventés un demi-siècle plus tard. Ces dispositifs produisent des faisceaux de lumière amplifiés, tous leurs atomes émettant dans la même direction, avec la même fréquence et la même phase, une lumière cohérente extrêmement stable. Ces sources sont très différentes des lampes classiques, dans lesquelles les atomes émettent indépendamment de façon spontanée des photons dans des modes différents, avec des phases et des fréquences aléatoires. On peut dire que la lumière laser est une lumière apprivoisée, domestiquée, par opposition à la lumière chaotique et sauvage des lampes classiques. On sait l'importance des lasers dans la technologie moderne. Les antennes gravitationnelles qui détectent d'infimes oscillations de la distance entre des miroirs séparés de plusieurs kilomètres exploitent la stabilité extraordinaire en phase et en fréquence de lasers extrêmement puissants. Il est remarquable de constater que la découverte des ondes gravitationnelles rapproche ainsi deux découvertes essentielles d'Einstein de la même année 1916, celle de la relativité générale qui a prévu, après de nombreux épisodes dont on a discuté hier, l'existence de ces ondes dues à la coalescence de trous noirs ou d'étoiles à neutrons distantes de millions d'années-lumière de la Terre, et celle de l'émission stimulée à la base de l'invention des lasers qui sont indispensables à la détection de ces ondes. Mais j'ai anticipé en parlant des lasers, en 1916, Einstein était loin d'envisager leur existence. Il ne semble pas avoir non plus noté à ce moment-là que les photons avaient tendance à se mettre à l'unisson, à s'accumuler tous dans le même état. Cette propriété de grégarité des photons allait conduire quelques années plus tard Einstein à sa dernière contribution importante à la théorie des quantas. Il fallut pour cela qu'il reçoive en 1924 une lettre d'un jeune physicien indien inconnu, Satyendranath Bose. Celui-ci lui envoya une courte note dans laquelle il démontrait à nouveau la formule de Planck en partant simplement des principes de la thermodynamique et en considérant le champ lumineux comme un ensemble de photons couplés à un réservoir thermique. En cela, il suivait la méthode que Boltzmann avait appliquée à un gaz d'atome. Pour calculer l'entropie du gaz de photons, c'est-à-dire son niveau de désordre, il dénombrait tous les états disponibles pour ce gaz et assumait qu'à l'équilibre, tous ces états sont équiprobables. Dans ce calcul, Bose faisait une hypothèse implicite, celle de l'indiscernabilité fondamentale des photons. Cette hypothèse était différente de celle faite par Boltzmann, qui, dans son calcul, numérotait les atomes et considérait comme deux configurations différentes celles où les atomes 1 et 2 occupés avaient des positions et impulsions XP pour l'atome 1 et X'P' pour l'atome 2, de la configuration inversée où c'est l'atome 2 qui avait la position XP et à l'atome 1 la position X'P'. Au lieu de cela, Bose considérait que ces deux états n'en faisaient qu'un pour les photons. L'état du gaz de photon est alors complètement spécifié par le nombre de particules pour chaque valeur de la position et d'impulsion, sans avoir à se préoccuper de la numérotation des particules. Ce changement de méthode de comptage, apparemment anodin, a une conséquence très importante. Il rend relativement plus probable la présence de tous les photons dans un même état. Si les particules sont discernables, les configurations où elles occupent des états différents peuvent en effet être réalisées de diverses manières en échangeant les particules entre ces états, alors que celles où elles occupent le même état ne peuvent être réalisées que d'une seule façon. La discernabilité rend ainsi plus rare relativement les configurations où les particules sont dans le même état que celles où elles sont dans des états différents, alors que l'indiscernabilité augmente la probabilité relative des configurations où toutes les particules occupent le même état, et en particulier celle de l'état fondamental dans lequel toutes les particules occupent l'état d'énergie la plus basse. En faisant cette hypothèse, Bose retrouvait la formule de Planck, ce qu'il n'aurait pas obtenu en employant la méthode de Boltzmann, et ce simple fait validait sa méthode de comptage à la base de ce qu'on appelle maintenant la statistique quantique de Bose-Einstein. En lisant le papier de Bose, qui était très allusif et dans lequel il ne s'étendait pas sur cette question, Einstein se rendit compte de son importance. Il reconnut peut-être aussi que cette indiscernabilité fondamentale des photons confirmait leur caractère grégaire, leur tendance à s'accumuler dans le même état, propriété que sa découverte de l'émission stimulée 8 ans auparavant avait déjà permis d'entrevoir. Le génie d'Einstein a été de partir de ce papier, qui somme toute ne faisait que confirmer une formule déjà connue pour la lumière, pour en étendre la portée en appliquant la statistique quantique à des particules matérielles, à un gaz d'atome considéré comme fondamentalement indiscernable. Il retrouva alors les propriétés classiques du gaz de Boltzmann à la température ambiante, mais à très basse température, il prédit que tous les atomes devaient se condenser dans le même état quantique, l'état fondamental du système, un peu à la manière des photons d'un faisceau laser qui tous occupent le même mode du champ. Alors je donne cette image, mais évidemment à l'époque d'Einstein, on ne pouvait pas faire cette comparaison. Cet état hypothétique de la matière ultra-froide, appelé condensat de Bose-Einstein, et imaginé bien avant l'invention du laser, laissa sceptiques les collègues d'Einstein qui ne voyaient ça que comme une curiosité résultant d'une méthode de calcul finalement arbitraire. On sait depuis que l'indiscernabilité des particules est une propriété fondamentale de la physique quantique qui classe les particules en deux catégories, celles qui ont tendance à se condenser dans le même état, que l'on appelle en dehors de Bose des bosons, et celles qui, au contraire, s'évitent, ne peuvent être deux à occuper le même état, les fermions. Alors, j'insiste aussi sur le fair play d'Einstein, qui a associé Bose jusqu'au bout, alors que Bose n'avait visiblement pas vu la portée de son calcul. On devrait appeler ça non pas des bosons, mais des Einsteinions, je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Parce que les particules qui, au contraire, s'évitent, elles portent le nom de fermi, ce sont des fermions. Les photons qui véhiculent les forces électromagnétiques sont des bosons, ainsi que les particules Z et W qui sont les véhicules de l'interaction faible, les gluons, véhicules de la force nucléaire, et le fameux boson de Higgs. Les constituants fondamentaux de la matière, quarks et électrons, sont au contraire des fermions. Enfin, les systèmes composites, que sont les atomes et les molécules, sont des bosons si le nombre total des particules qu'ils contiennent est pair, et des fermions si ce nombre est impair. Ainsi, la classification périodique des éléments se divise pour moitié en fermions et moitié en bosons. On a appris depuis Einstein que les condensats de Bose-Einstein possèdent des propriétés quantiques très spéciales. Leurs particules se comportent de façon collective, agissent en quelque sorte en unisson, et font que ces systèmes peuvent manifester de la superfluidité, s'écouler sans viscosité. C'est le cas de l'hélium liquide à très basse température, dont la superfluidité a été découverte dans les années 1930, et la superfluidité se manifeste également dans la supraconductivité à très basse température que j'ai déjà mentionnée. Les électrons de ces métaux, qui sont des fermions, s'associent en paires à caractère bosonique qui s'écoulent sans résistance. Ainsi, en prédisant la condensation de Bose-Einstein, Einstein a livré un élément essentiel de la compréhension de la supraconductivité. Il faut enfin noter que la condensation de Bose-Einstein des atomes d'un gaz a été observé pour la première fois en 1995, 70 ans après l'article d'Einstein, dans un ensemble d'atomes refroidis et piégés à l'aide de lasers. Libérés de leur piège, ces condensats forment des faisceaux de matière cohérente, analogues à des rayons laser dans lesquels les photons sont remplacés par des atomes. Ce nouvel état de la matière fait aujourd'hui l'objet d'études très actives dans de nombreux laboratoires du monde entier. Nous arrivons en 1925 à la fin des contributions essentielles d'Einstein à la physique quantique. Cette physique rassemblait alors un ensemble d'observations et de méthodes disparates, mais ne constituait pas encore une théorie achevée, décrite de façon mathématique simple et claire. La situation allait changer radicalement dans les mois qui suivirent. Einstein n'a pas été l'auteur de ce dernier chapitre, mais il en a suivi de près le déroulement. Revenons pour évoquer ce chapitre final encore une fois à la photo du congrès Solvay de 1911. À côté d'Einstein, à l'extrême droite, nous voyons Paul Langevin et au centre, Maurice de Breuil, qui était le co-secrétaire avec Marcel Bruidouin. Le frère de Maurice, Louis de Breuil, ne participait pas au congrès et, étudiant en histoire, ne s'intéressait pas encore à la physique. On dit que c'est Maurice qui fit naître en Louis de Broglie la passion pour la physique en lui parlant des discussions qui se déroulaient au cours de ce congrès. Après avoir changé d'orientation, fait ses classes en physique classique à la Sorbonne et traversé la Grande Guerre comme spécialiste des communications radio à la Tour Eiffel, Louis entreprit en 1920 une thèse de physique sous la direction de Langevin. Reprenant l'idée de dualisme onde-particule d'Einstein, il l'étendit à la matière en postulant que les particules matérielles, comme les photons, devaient être associées à des ondes. Les détails de cette association restaient flous, mais de Broglie prédisait la possibilité d'observer les interférences de ces ondes de matière et pouvait, à l'aide d'un modèle simple, retrouver les formules de Bohr sur le spectre de l'hydrogène. Pour arriver à ce résultat, de Broglie s'était largement inspiré des travaux d'Einstein, de ses papiers sur les quantas, bien sûr, mais aussi de ceux sur la relativité. Le photon se propageant à la vitesse de la lumière, avec une masse nulle, est une particule relativiste, et c'est en comparant ses propriétés à celles des particules de masse finie, petit m, et de vitesse v, que de Broglie trouva la formule qui renie la masse m et la vitesse v des particules matérielles à la longueur d'onde lambda qui leur est associée. L'idée était révolutionnaire et Langevin ne savait pas trop quoi en penser. Il envoya en 1923 le manuscrit de la thèse à Einstein. Celui-ci fut grandement impressionné. Il répondit à Langevin que le jeune de Broglie avait levé un pan du grand voile qui cachait les lois du monde microscopique. On peut penser que c'est en rapprochant les travaux de Broglie et de Bose, dont il prit connaissance à quelques mois d'intervalle, qu'Einstein eut l'inspiration de son papier sur l'indiscernabilité des bosons. Si des particules se comportent comme des ondes qui peuvent se recouvrir les unes les autres dans l'espace, il est naturel de penser qu'elles doivent être fondamentalement indiscernables. Quoi qu'il en soit, Langevin fut rassuré par l'imprimatur donnée par Einstein et de Broglie put soutenir sa thèse avec Jean Perrin comme président du jury. Après la soutenance, Maurice de Broglie demanda à Perrin ce qu'il pensait de son frère et sans trop s'avancer, ce dernier lui répondit « Je pense que votre frère est très intelligent ». L'observation en 1926 des premières interférences d'électrons prouvèrent que de Broglie n'était pas qu'intelligent, il avait aussi vu juste. Donc vous voyez qu'on peut faire avec des particules matérielles le même genre d'expérience d'interférence que l'on fait avec des photons. Quelques mois plus tard, Erwin Schrödinger, un professeur de physique à Zurich, présenta dans un séminaire à ses collègues les travaux de de Broglie. L'un des auditeurs, Peter Debye, lui fit remarquer de façon un peu acide que s'il y avait onde, ça n'avait pas de sens d'en parler s'il n'y avait pas une équation qui décrivit la propagation de ces ondes. Quel était donc l'équivalent pour ces ondes de la matière des équations de Maxwell pour les photons? Schrödinger s'attela à ce problème et établit en quelques mois de travail fiévreux la fameuse équation des ondes qui porte son nom. On raconte qu'il s'est isolé dans un village de montagne en Autriche avec une femme inconnue, dont on ne connaît toujours pas l'identité, et que cela a grandement aidé à l'élaboration de la théorie. Indépendamment de Schrödinger, Heisenberg, un jeune étudiant allemand en physique théorique, avait présenté presque simultanément une théorie mathématique de la physique quantique basée sur la description des observables physiques sous forme de tableaux de nombres ou matrices obéissant à une algèbre non commutative. Il fut rapidement reconnu que les points de vue de Schrödinger et d'Heisenberg étaient équivalents, qu'ils décrivaient une même réalité physique dans deux formalismes que l'on pouvait traduire l'un dans l'autre. La physique quantique, sous sa forme moderne, était née. Il restait à comprendre quelle était la nature profonde de ces ondes dont l'équation de Schrödinger décrivait la propagation. De quoi était-elle faite? Dans quel milieu se propageait-elle? Devait-on réinventer l'éther qu'Einstein avait éliminé de la physique 20 ans auparavant? La réponse fut donnée rapidement par Max Born, le maître de Heisenberg. Il s'agissait d'ondes mathématiques abstraites qui n'avaient pas besoin de milieu pour se propager et qui étaient associées à des distributions de probabilités. Le carré de l'amplitude de l'onde en un point, l'intensité de l'onde, représente la probabilité de trouver la particule en ce point. Cette formulation faisait apparaître un aspect essentiel de la théorie, son caractère probabiliste. En physique quantique, on ne peut parler de la position ou de la vitesse d'une particule ou encore de son énergie si on n'a pas fait une mesure qui donne un résultat à cette valeur. Avant cette mesure, tous les résultats potentiels sont possibles avec des probabilités décrites par l'onde de Schrödinger ou par les valeurs des éléments de matrice de Heisenberg. Ces probabilités ne sont pas dues, comme en physique statistique classique, à une connaissance insuffisante du système ou au fait qu'on renonce à connaître de façon microscopique tout ce qui se passe dans le système, mais à une indétermination fondamentale pour un processus quantique unique. Les fameuses relations d'incertitude de Heisenberg qui expriment que l'on ne peut pas à la fois mesurer avec précision la position et la vitesse d'une particule en est une des expressions. Bohr devait traduire cette propriété profonde de la nature par son principe de complémentarité. Suivant l'appareil utilisé, la nature manifeste des aspects différents de la réalité physique. Selon le type de mesure effectuée sur un système microscopique, celui-ci manifestera son aspect ondulatoire ou corpusculaire. Ainsi, si l'appareil de mesure ne nous permet pas de suivre la trajectoire du système, alors les interférences se produiront entre les différentes amplitudes et le côté ondulatoire du système se manifeste. Si au contraire la mesure permet de distinguer les trajectoires, alors les interférences disparaissent et le système se comporte comme un ensemble de particules. Il n'existe pas de réalité physique descriptible indépendamment de l'appareil qui sert à observer, et cet appareil perturbe de façon aléatoire le système mesuré. Ce principe de complémentarité, qui résume ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, traduit en mots les équations mathématiques qui permettent de calculer l'évolution des systèmes quantiques et de déterminer les probabilités des résultats des mesures effectuées sur eux. Toutes les expériences réalisées depuis 100 ans ont montré la validité de ces équations qui n'ont jamais été prises en défaut. La théorie quantique s'est révélée dès la fin des années 1920 d'une extraordinaire efficacité pour élucider la structure de la matière, celle des noyaux, des atomes, des molécules, des solides, ainsi que leurs propriétés optiques et électroniques. Les physiciens et chimistes qui ont mené ces études ont utilisé l'équation de Schrödinger comme un outil pragmatique pour comprendre le monde microscopique sans s'embarrasser d'interrogations philosophiques sur l'interprétation de la théorie. Alors, j'en arrive maintenant à la conclusion. Quelle fut l'attitude d'Einstein face à ces développements ? Il avait le premier ouvert la boîte de Pandore en introduisant en physique un dualisme incompatible avec les concepts classiques. Il avait reconnu que cette physique portait en elle un indéterminisme fondamental, en décrivant par exemple l'émission spontanée de photons comme un processus aléatoire. Il avait aussi le premier compris l'importance de l'indiscernabilité quantique, qui est une propriété essentielle de particules se comportant comme des ondes. On peut ajouter qu'Einstein avait cru à la réalité des photons bien avant Planck et même avant Niels Bohr, qui jusque dans les années 30 se refusait à accepter l'existence de la particule de lumière. Et pourtant, la façon dont s'est conclue sa longue quête scientifique de 20 ans, la théorie quantique telle qu'elle était interprétée à Copenhague, déplaisait fortement à Einstein. Il ne croyait pas à un monde non déterministe s'opposant à l'idée que Dieu joue au dé avec la nature, suivant la formule qui est toujours rappelée. Il chercha au cours des congrès Solvay de 1927 et de 1930, dans ses discussions avec Bohr, a imaginé des expériences de pensée mettant en défaut le concept de complémentarité ou les relations d'incertitude. Je ne mentionne ici ces expériences intéressantes pour l'histoire des sciences que pour dire que Bohr fut toujours capable, avec plus ou moins de précision, de montrer à Einstein que la théorie quantique était cohérente et sans contradiction. Jusqu'à sa mort, Einstein a cherché à dépasser la physique quantique pour revenir à une théorie dans laquelle le hasard n'aurait plus de place centrale. Alors que sa créativité lui a permis de s'affranchir de bien des œillères qui aveuglaient les scientifiques de son temps, il a gardé jusqu'au bout, au sujet des quantas, un préjugé philosophique profondément ancré qu'il a détourné du chemin que la plupart des physiciens ont suivi à partir des années 30. Au lieu de se taire et de calculer, « shut up and calculate », suivant l'injonction des tenants de l'école de Copenhague, à ceux qui se posaient des questions d'interprétation, il s'est attaché à la recherche abstraite d'une théorie des forces de la nature englobant l'électromagnétisme, la gravitation et une théorie quantique débarrassée de l'indéterminisme. Je crois qu'un point très important, c'est que, alors qu'il avait suivi de près les progrès expérimentaux au début du XXe siècle, il n'accorda qu'un intérêt distrait à ceux des années 1930 à 50, qui furent pourtant très importants, en physique nucléaire notamment. Et il ne pouvait donc qu'échouer dans une quête qui se devait de rendre compte de l'ensemble des résultats expérimentaux. Même avec les connaissances acquises depuis, nous devons d'ailleurs constater que le rêve d'une théorie unifiée n'est toujours pas accompli. Les deux grandes constructions dont Einstein a été à des degrés différents l'initiateur restent à ce jour incompatibles. Le dernier épisode de cette histoire eut lieu en 1935, avec la publication par Einstein et ses collaborateurs Podolsky et Rosen d'un article retentissant que l'on appelle simplement le papier EPR, dont on a parlé déjà ce matin. Einstein attaque la mécanique quantique, devait dramatiquement titrer le New York Times. Ça vous montre également l'importance que revêtait la physique fondamentale à l'époque. C'est vraiment le gros titre du New York Times du mois de mai 1935. Cet article analysait un phénomène quantique que je n'ai pas encore évoqué, l'intrication. Lorsque deux systèmes quantiques interagissent, ils évoluent dans un état global tel que les valeurs prises par leurs observables physiques sont corrélées entre elles. Cette corrélation n'est pas en elle-même inattendue. La physique pré-quantique, la physique classique, est pleine de ces corrélations qui se comprennent bien classiquement. Au moment de l'interaction entre deux objets, une collision par exemple, les processus physiques obéissent à des lois de conservation qui expliquent la corrélation des mesures postérieures effectuées sur ces systèmes. En physique quantique, cependant, ces corrélations prennent un aspect étrange en raison du caractère aléatoire du résultat des mesures. Si l'on considère deux particules quantiques ayant chacune deux états, par exemple deux photons possédant deux états de polarisation que j'ai symbolisés par les couleurs rouge et bleu, eh bien, on peut les préparer dans un état quantique tel qu'on trouvera à coup sûr le même résultat quand on mesurera au même instant leur polarisation le long de la même direction, quelle que soit cette direction, même si les photons sont séparés de plusieurs kilomètres. Chaque mesure donne un résultat aléatoire, mais cet aléatoire est corrélé à distance, comme si deux dés lancés dans deux coins de l'univers tombaient toujours sur la même face. Ainsi, la physique quantique est non seulement un jeu de hasard, mais c'est en plus un jeu de hasard non local. Et cela, c'était beaucoup trop pour Einstein. Dans le papier EPR, il analyse de façon très précise l'intrication comme une conséquence des lois quantiques, mais il ajoute que les résultats prédits par cette physique ne peuvent se comprendre que s'il existe quelque chose d'autre, non explicitement décrit, qui permettrait de l'expliquer. Il considérait la physique quantique comme incomplète et envisageait en fait l'existence de variables cachées dont la valeur était déterminée au moment de la création de la paire de particules intriquées, mais qui ne se révélait qu'au moment de la mesure. L'information associée à cette variable cachée avait dû se propager dans l'espace avec les particules. Au contraire, suivant l'interprétation orthodoxe que Bohr rappela à Einstein dans un article assez obscur en réponse au papier EPR, le résultat de la mesure n'apparaissait de façon aléatoire qu'au moment où celle-ci était faite, et il fallait admettre l'existence de ce hasard non local irréductible. Le débat en resta là jusqu'à ce que le physicien irlandais John Bell reprit en 1962 l'idée de variable cachée et proposa une expérience permettant de la tester. Il s'agissait, en effectuant des mesures corrélées d'observables différentes sur deux particules intriquées, d'accumuler statistiquement des probabilités de résultats corrélés et de sommer de façon astucieuse ces probabilités pour obtenir un nombre qui devait être inférieur à une valeur donnée s'il existait des variables cachées. Il établit ainsi des relations appelées inégalités de Bell. De nombreuses expériences faites avec des photons et avec des particules matérielles ont depuis vérifié que ces inégalités sont bien violées, que donc il n'y a pas de variable cachée et que la nature obéit bien à une physique non locale. Ces expériences menées après la mort d'Einstein et de Bohr ont donné à titre posthume raison à ce dernier. Le papier EPR a eu cependant le mérite d'attirer l'attention sur l'intrication et de motiver la réalisation de belles expériences pour l'étudier. Celle-ci, l'intrication, est aujourd'hui l'un des ingrédients essentiels de l'information quantique pour calculer et mesurer, qui cherche à exploiter les propriétés étranges de la physique quantique pour calculer, mesurer ou communiquer. Il est intéressant de constater que certaines des expériences d'information quantique réalisées aujourd'hui en manipulant des atomes et des photons sont en fait de véritables réalisations au laboratoire des expériences de pensée d'Einstein et de Bohr. Ainsi, même lorsqu'il a eu tort, Einstein a suscité des débats féconds et il a continué à influencer la physique. J'ai essayé de décrire la subtilité de la pensée d'Einstein, sa richesse ainsi que les doutes qui l'ont assailli dans l'aventure des quantas. Pour évoquer sa visite au Collège de France en 1922 à l'invitation de Langevin, constatons qu'on n'en parle que pour évoquer la relativité et les questions qu'elle continue à poser au public français, comme le problème paradoxe des jumeaux, par exemple. Pour Einstein, à cette époque, la relativité n'avait plus de mystère profond, si ce n'est peut-être dans ses rapports avec la cosmologie. Les quantas le préoccupaient beaucoup plus. Mais aucun de ses interlocuteurs français, à part peut-être le jeune De Broglie, dont je ne sais s'il assista ou non à ce colloque, ne pouvait le suivre sur ce terrain. Et c'est probablement la raison pour laquelle il préféra s'en tenir à Paris à l'évocation de la relativité, même si, à peu près à la même époque, il devait parler des quantas à Rio de Janeiro. Pour plus de détails sur Einstein et la physique quantique, je vous renvoie à ces deux excellents ouvrages qui m'ont aidé pour la préparation de cet exposé. Je vous remercie.